pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'était il y a 5 ans, le 11 mars 2011. En plein milieu de l'après-midi, le Japon était secoué par un puissant tremblement de terre.
Je me trouve au 20e étage de l'immeuble qui abrite le Press Club ici à Tokyo et la secousse est survenue verticalement et c'est plutôt mauvais signe. On a eu l'impression que l'immeuble sortait de terre et ensuite il y a eu un déplacement latéral, je ne sais pas, de plus d'un mètre ou plus. On a eu l'impression que le gratte-ciel allait s'appuyer sur une autre tour qui se trouve à côté de la nôtre, un jet de pierre du palais impérial ici à Tokyo.
Et 51 minutes plus tard, une immense vague submerge la côte nord-est du Japon, provoquant la mort de plus de 15 000 personnes. 600 km de côte sont ravagées. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est impactée. Le premier ministre Naoto Kan évacue en catastrophe la population.
Le niveau de radiation autour de ces réacteurs est très élevé et le risque est sérieux. Nous avons établi un périmètre de sécurité de 20 km autour de cette centrale. Et une grande partie de la population a déjà été évacuée. Nous demandons à présent à tout le monde de bien vouloir quitter ce périmètre. Et pour ceux qui se trouvent entre 20 et 30 km de la centrale nucléaire, nous vous demandons de rester à l'intérieur, dans vos maisons, dans vos bureaux. Il ne faut pas sortir.
5 ans plus tard, quelle est la situation au Japon et plus globalement, quel est l'avenir du nucléaire? Nous en parlons avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nous dans ce studio, 3 invités. Thierry Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la sûreté à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Bernard Laponge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, fondateur et membre de l'association Global Chance qui propose une expertise indépendante dans le domaine de l'énergie. Yuki Takahata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de YosomoNet, le réseau international des ressortissants japonais contre le nucléaire et membre de Sortir du nucléaire Paris. Et par téléphone, Bruno Charéron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en physique nucléaire et chef du laboratoire de la CRIRA, de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et Arnaud Vollerin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant du journal Libération au Japon et auteur de La Désolation chez Grasset. Vous avez suivi pendant 2 ans les ouvriers du nucléaire au Japon. Nous allons en reparler. Mais tout d'abord, Thierry Charles, j'aimerais démarrer avec vous. Quelle est la situation sur place, 5 ans après, au niveau de la centrale?
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu des avancées indéniables, mais qu'il reste énormément à faire. Si je faisais une transposition, si je prenais l'image d'un iceberg, vous savez qu'un iceberg, 10% émerge, 90% est sous l'eau, ben là, c'est à peu près ça. Actuellement, à moins de 10% des opérations ont été faites. Les principales opérations ont été mises en œuvre, c'est des opérations de sécurisation du site, de réduction des rejets diffus liés à l'installation accidentée, et puis également les premières actions pour justement réduire les risques liés aux matières présentes. L'action majeure qui a été menée par TEPCO a été l'évacuation des combustibles présents dans une des piscines d'entreposage des réacteurs accidentés, la piscine numéro 4, qui était vraiment la piscine la plus sensible, parce que contenant le plus de combustible et combustible le plus chaud, puisque le réacteur 4, lui, était à l'arrêt et sans combustible dans le cœur lors de l'accident, et tout le cœur était dans la piscine. Donc c'était vraiment un enjeu assez important de rapidement pouvoir évacuer ce combustible, ce qui a été fait en 2014. Mais c'est vraiment que le début de l'ensemble des opérations.
Oui, aujourd'hui, le problème n'est pas du tout résolu. Bruno Charéron, il y a encore beaucoup d'activités sur la centrale même.
Oui, d'ailleurs, il faut penser aux travailleurs. À ce jour, plus de 46 000 travailleurs sont intervenus sur le site. Actuellement, en janvier 2016, par exemple, TEPCO faisait état de 10 000 travailleurs, dont 9 000 sous-traitants. Et il faut penser que ce sont des personnes qui travaillent dans des conditions qui sont vraiment extrêmement difficiles, avec des niveaux de radiation très importants à l'extérieur des bâtiments réacteurs, et évidemment encore plus importants dans les bâtiments réacteurs, où on a des niveaux de radiation qui sont de plusieurs millions de fois ou dizaines de millions de fois au-dessus des niveaux normaux. Donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que le site soit totalement en sécurité, puisque TEPCO est obligé d'injecter toujours, chaque jour, à peu près 300 mètres cubes d'eau pour continuer à refroidir la matière hautement radioactive qui a fondu dans trois réacteurs et qu'on appelle le corium. Et ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, TEPCO nous dit qu'ils ne savent pas exactement où cette matière hautement radioactive s'est écoulée. Et ça, c'est une question.
Comment c'est possible, ça ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est la matière radioactive ?
Ben, ce corium fondu est tellement radioactif que même les robots n'arrivent pas à s'en approcher. Les tests qui ont été faits avec des rayonnements cosmiques pour faire une radiographie à distance montraient que, par exemple, dans le réacteur numéro 1, le combustible nucléaire avait totalement fondu et ne se trouvait plus dans le cœur proprement dit du réacteur. Et aujourd'hui, TEPCO n'est pas en mesure de nous dire exactement où est cette matière très fortement radioactive. Donc la situation sur le site reste toujours extrêmement préoccupante et on peut dire que la catastrophe de Fukushima, elle est toujours en cours aujourd'hui, que ce soit du point de vue du site ou que ce soit du point de vue des populations à l'extérieur du site.
Alors vous parliez de l'eau, c'est vrai que c'est un enjeu très important. Je lisais qu'il y avait 790 000 tonnes d'eau radioactive stockée sur place et ça s'accumule de jour en jour.
Oui, TEPCO fait énormément d'efforts pour traiter ce problème de l'eau, mais il n'est pas résolu aujourd'hui. Les différentes tentatives qui ont été mises en place, de murs glacés par exemple, ou de pompage d'un certain nombre de drains pour traitement avant rejet, pour l'instant ne sont pas satisfaisantes. Et TEPCO continue à accumuler au moment où on parle, chaque jour, des quantités extrêmement importantes d'eau contaminée qui s'accumulent sur le site et qu'il va falloir un beau jour traiter. Donc ce problème de l'eau est vraiment là aussi extrêmement préoccupant. Et ce qui se passe sur le site de Fukushima, c'est vraiment invraisemblable. C'est-à-dire quand on pense qu'il y a trois cœurs qui ont fondu, qu'il y a 10 000 personnes qui travaillent dans cet environnement très radioactif pour sécuriser une situation qui n'est pas aujourd'hui maîtrisée, c'est vraiment une situation très, très complexe à appréhender de l'extérieur.
Alors vous parliez des travailleurs du nucléaire. Arnaud Vollerin, justement, vous avez enquêté pendant 2 ans sur ces travailleurs. Ça donne votre livre, dont le titre est assez parlant, hein, La Désolation, publié chez Grasset. Alors qui sont ces 6 000, 10 000 travailleurs qui aujourd'hui encore sont quotidiennement sur le site de la centrale ?
Le portrait robot du travailleur qui travaille à la centrale de Fukushima Daiichi n'existe pas. Il y a plusieurs types de travailleurs qui interviennent sur la centrale. D'une part parce qu'il y a des employés qui sont employés par TEPCO, qui gère le site et qui travaille également avec les principaux sous-traitants, les grands conglomérats japonais comme Toshiba, comme Hitachi. Donc ces ouvriers-là ont plutôt des conditions salariales, des conditions de sécurité enviables. Parce que ce n'est évidemment pas le cas des gens qui sont tout en bas de la pyramide, puisque ce système des travaux à la centrale fonctionne avec un système de sous-traitants qui est très élevé. On atteint jusqu'à parfois 10 niveaux dans la sous-traitance avec des entreprises qui n'ont aucun rapport, aucun contact avec TEPCO. Et quand on est tout en bas de cette pyramide de la sous-traitance, bien sûr, les conditions de sécurité, les conditions sanitaires et les conditions salariales ne sont absolument pas respectées. Et pour ces travailleurs-là, oui, il y a un danger, oui, c'est une désolation, et oui, effectivement, c'est pas moi qui inventais cette expression-là, ces gens se sentent effectivement comme des humains jetables.
Thierry Charles, tout ça fait quand même un constat assez inquiétant, rien que sur le site.
Mais effectivement, il ne faut quand même pas oublier qu'un accident nucléaire, c'est donc un événement très important qui affecte trois réacteurs dans le cas présent, avec des coriums qui effectivement ont traversé les cuves, et ces coriums se retrouvaient dans le fond du bâtiment, dans l'enceinte de confinement, sur le béton du fond du réacteur. Alors un point important, quand on ne dit pas oui, on ne sait pas où il est, effectivement, précisément, dans quel état est-il, exactement où il est déposé, ça, personne n'a la réponse, que personne ne peut aller voir pour l'instant. Par contre, il est clair qu'il est resté bloqué par le béton, sinon ça se verrait en dessous dans les nappes phréatiques. Donc il est finalement dans le fond du bâtiment. Et pour quelle raison il est très important maintenant de pouvoir comprendre dans quel état il est et exactement où il est, c'est pour préparer les opérations ultérieures qui vont permettre à terme de pouvoir intervenir pour récupérer ce corium. Donc il y a vraiment 3 enjeux pour TEPCO. Il y a un enjeu, je dirais, d'état des lieux. Comprendre dans quel état est précisément l'installation, notamment où sont les coriums, dans quel état. Deuxième objectif, c'est de préparer des scénarios d'intervention. Et troisième objectif, ils ont donc créé, TEPCO, un institut de recherche sur le démantèlement, qui lui a pour mission de définir les outils qui permettront d'intervenir sur ces coriums.
Mais intervenir, ça sous-entend des travailleurs, et comme on l'a entendu, dans des conditions à distance, oui, mais enfin pas uniquement, j'imagine, des conditions extrêmement compliquées.
Je m'appelle Sito Segi. Je suis le directeur du département de la communication de TEPCO, Tokyo Electric Power. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour l'accident qui s'est passé et nous présentons nos excuses aux populations de la région et à toutes les populations du monde.
Pour nous écrire, c'est pas du vent@rfi.fr.
5 ans après la catastrophe de Fukushima, quelle est la situation au Japon? Nous venons de voir que la centrale représente toujours un danger. Malgré cela, le gouvernement japonais incite les gens à retourner vivre dans certaines zones qui avaient été évacuées. Arnaud Vollerin, vous êtes le correspondant de Libération au Japon. Dans quelle mesure le gouvernement incite les gens à retourner sur place?
C'est effectivement, il y a un premier village qui est, dont l'interdiction de séjour a été levée en septembre. C'est la ville de Naraha, un petit village de, avant le 11 mars, qui comptait 7400 habitants. Aujourd'hui, les gens reviennent, mais reviennent effectivement en très petit nombre, puisqu'on atteint très péniblement, je crois que c'est 440 personnes à la date de février dernier. Donc, les gens reviennent avec beaucoup de crainte, puisque le gouvernement a fixé comme seuil de taux de radioactivité possible pour un retour moins de 20 millisieverts. 20 millisieverts, moi je suis pas un expert en radioprotection, les gens autour de la table pourront dire plus de choses que moi là-dessus, mais 20 millisieverts, c'est la norme qu'on accorde pour les ouvriers du nucléaire en France, par exemple. Donc ça, c'est ce taux-là, c'est le taux que les autorités japonaises réservent à la population civile. Donc ça vous donne déjà une idée pour comprendre comment et combien le gouvernement japonais insiste effectivement pour que les populations reviennent dans les zones qui sont plus trop contaminées, où les travaux de décontamination ont été plus ou moins bien réalisés.
Alors, est-ce que la population revient du coup?
La population, ce que je disais, revient en très petit nombre, puisque à Nara, donc, il y avait 7400 personnes avant le 11 mars. Là, il y en a 440. Et les trois quarts des habitants qui reviennent, c'est des gens qui ont plus de 60 ans. Mmh. Donc, vous ne voyez, j'y suis allé il y a une quinzaine de jours, il y a aucun enfant, il n'y a pas d'école ouverte, il y a très peu de services administratifs. C'est des villes qui étaient très étendues.
Ça représente quelle étendue globalement
Ça concerne à peu près une zone de 60-70 km de nord au sud et de large, il faut compter à peu près 30 à 40 km. Mmh. La zone qui a été effectivement arrosée par le nuage radioactif. Et dans cette zone-là, il y a 7 communes qui étaient dans la zone interdite des fameux 20 km. Donc ça représente beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a 160 000 personnes qui ont été évacuées en 2011. Il en est revenu un peu moins de 100 000.
Oui, Yukiya Takahata, vous hochiez la tête. En effet, les Japonais ne sont pas prêts à revenir dans cette zone.
Non, parce que la région a été contaminée durablement. Et là, on parle des communes évacuées, parce que ça a été extrêmement contaminé au début de l'accident. Il y a 3 zones parmi ces zones évacuées initialement. Et le gouvernement japonais veut le faire revenir 2 zones. D'abord, par exemple, Naraha correspond à ce qu'on appelle la zone de préparation au retour. Donc, c'est moins de 20 millisieverts. Par an, c'est comme si tout le monde travaille aux centrales nucléaires, enfants et femmes compris. Et deuxième zone, ça s'appelle zone de séjour limitée. Alors actuellement, les gens peuvent aller ranger les maisons, mais ils n'ont pas le droit de passer la nuit. Parce que actuellement, c'est entre 20 et 50 000 sievers par an, c'est extrêmement contaminé, quoi. Et de toute façon, c'est pour ces 2 zones où il y a, pour la préparation en retour, il y a 31 800 personnes, le zone de séjour limité, il y a 23 000 personnes. Pour toutes ces personnes, ils veulent qu'ils reviennent avant avril 2017. Parce que, tout ça, parce qu'ils veulent arrêter d'indemniser tous ces gens. Et surtout, il faut vraiment insister sur une dimension du déni de la gravité de l'accident. Ils veulent dire que ce n'est pas grave, on va reconstruire, et ils ont besoin que des gens reviennent pour dire que, vous voyez, pour faire des Jeux Olympiques de Tokyo, vous voyez, maintenant, le Japon, c'est normal, quoi.
Oui, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui doivent avoir lieu à Tokyo, je crois, en 2020.
2020, oui.
Donc, en effet, il faut avoir quand même une bonne image. Bernard Laponche, est-ce que 20 millisieverts, c'est une dose acceptable pour vivre quotidiennement quelque part?
Non, c'est ce qui a été dit, c'est la dose qui est admise. Il faut bien voir que les doses, c'est un équilibre entre les avantages et les inconvénients. Pour les travailleurs du nucléaire, d'abord, on peut déjà les sélectionner, avoir des gens en meilleure santé, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pratiquement pas de femmes, etc. Et pour des travaux particuliers, c'est pas tous les jours, il y a une limite qui est donc les 20 millisieverts par an. Donc on considère que c'est vraiment des travailleurs très particuliers. Donc considérer qu'une population normale, famille, femme, enfant, soit mise dans de telles conditions, c'est inadmissible, parce que 20 millisieverts par an, dans ces cas-là, on les accumule. Ce n'est pas le cas des travailleurs du nucléaire. Au bout d'un certain temps, ils peuvent changer ou être modulés. Tandis que la famille, elle ne va pas s'installer pour 5 ans. Et 5 ans, elle recevrait en tout 100 millisieverts. Donc c'est tout à fait condamnable.
Thierry Charles, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire que vous représentez a participé avec le gouvernement japonais. Enfin, vous conseillez le gouvernement japonais dans ses choix. Vous me disiez que vous avez assisté aussi à des dialogues entre les autorités japonaises et la population pour inciter les gens à revenir, pour voir quels étaient leurs questionnements, etc. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Bernard Laponche qui dit que 20 millisieverts, c'est pas raisonnable?
Un premier point, c'est que l'IRSN ne conseille pas le gouvernement japonais. Ils ont sur place leurs propres experts pour ce faire.
Oui, mais vous êtes impliqué quand même.
Je vais revenir. Par contre, on n'est pas le support, entre guillemets, technique de l'autorité japonaise. Par contre, un point important, il faut quand même bien voir, c'est que les valeurs de 1 millisievert ou de 20 millisieverts ne sont pas des limites sanitaires. Ce n'est pas parce qu'on prend 1,1 ou qu'on prend 21 que du jour au lendemain, on a une difficulté. Là où l'IRSN est intervenu, donc vous savez qu'un point important, on voit bien, les conséquences d'un accident nucléaire, en fait, c'est une déstructuration du lien social autour du site dans les zones évacuées. Et une difficulté, quand il y a besoin de reconquérir un territoire, donc le gouvernement japonais a retenu de reconquérir les territoires et donc de refaire venir les personnes en mettant en œuvre des dispositions, notamment...
Mais vous, ça vous semble raisonnable?
Je ne suis pas en train de dire que tout est raisonnable. Je suis en train de dire qu'il faut bien trouver une solution pour permettre à des personnes de revenir vivre dans leur environnement habituel.
Ben oui, mais si cet environnement est pollué et dangereux... Mais
attendez. Après, il y a des règles à retenir. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement japonais, à ma connaissance? Il a défini trois types de zones. Il ne faut pas oublier une chose, que quand on parle de 20 millisieverts indiqués par les Japonais, ce sont des calculs qui supposent que vous faites dans l'absolu en prenant des marges qui donnent des estimations qui permettent de définir des périmètres.
Un calcul cynique.
Rapidement, Bruno Charréron, comment vous réagissez aux propos de Thierry Charles?
D'abord, je voudrais rappeler que au moment de la catastrophe, l'IRSN a joué un rôle très ambigu en faisant des simulations de doses qui allaient être subies par les populations japonaises. C'était autour du 18 mars 2011. Et l'IRSN a conclu que finalement les mesures de gestion de la catastrophe, les mesures d'évacuation mises en œuvre par les autorités japonaises étaient satisfaisantes. Or pour nous, à la CRIRAD, les mesures prises à l'époque n'ont pas du tout été satisfaisantes, que ce soit par rapport à la façon dont les personnes ont été évacuées, ou plutôt pas évacuées, que ce soit par rapport à la non-distribution des pastilles d'iode, ou que ce soit par rapport au délai qui a été pris avant de demander aux gens de ne pas consommer un certain nombre d'aliments très fortement contaminés. Maintenant, pour la situation après les dépôts, les autorités japonaises acceptent de laisser courir à leur population des risques qui sont 20 fois plus élevés que ce qu'on tolère habituellement. C'est-à-dire que les autorités japonaises acceptent qu'il y ait 20 fois plus de décès par cancer ou 20 fois plus d'autres pathologies liées aux radiations que ce qu'on juge d'habitude comme acceptable. Tout ça simplement parce que la catastrophe nucléaire est quelque chose qui est ingérable. C'est-à-dire que si on voulait vraiment protéger la santé des habitants avec les niveaux de protection qu'on considère comme habituellement acceptables, il aurait fallu évacuer beaucoup plus de personnes sur les préfectures au-delà de celles de Fukushima, au nord à Miyagi, au sud à Ibaraki. Il y a des zones où la radioactivité annuelle sur plusieurs années est supérieure aux millisieverts par an. Donc ces normes de 20 millisieverts ont été édictées pour pouvoir limiter les conséquences économiques de la catastrophe. Et il est vraiment choquant de voir que le gouvernement central japonais se prépare à arrêter très prochainement l'aide aux personnes qui sont actuellement relogées. Et ça, c'est vraiment choquant.
Alors, on voit bien que c'est difficile à gérer l'après d'une catastrophe nucléaire. On arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On continue à en parler juste après le flash d'info, toujours avec nos invités. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.